des salaires. On parle d'une hausse salariale de 2,7% pour les hommes, alors qu'il s'agit d'une hausse salariale d'un seulement 1,5% pour les femmes. Donc, l'écart entre la paye moyenne des femmes et des hommes continue de se creuser au Québec et au Canada.
Je ferai preuve d'un cynisme important en disant que je suis malheureusement pas surpris. C'est le genre de nouvelles qu'on entend beaucoup trop souvent, puis on n'arrête pas de dire « faut que ça change ». J'ai l'impression que depuis que je suis au secondaire, tout le monde en parle, les écarts salariaux, à quel point c'est un enjeu criant qui devrait être réglé, que cet enjeu-là, c'est un enjeu du siècle dernier, mais crime pas, on est en 2022, puis ça se réalise encore. C'est la troisième fois que je suis en bas de ma chaise aujourd'hui, Guillaume, dans une seule émission d'une heure.
Quand même, grosse émission pareille. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi de m'avoir invité encore une fois.
Et merci à toi, cher public, de nous faire confiance à tous les jours pour ta quotidienne d'actualité sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Pour ne rien manquer des nouvelles culturelles à Québec, rejoignez-moi et mon équipe pour parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Tous les jours, on en fait. Tous les jours, on en parle. Mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est un peu inconscient. Notre vie en société est marquée par, eh oui, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste de la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
Le Mois Multifestival d'art multidisciplinaire et électronique est de retour. Du 3 au 27 février, visitez les installations à Méduse et à l'espace 400e. Expérimentez la réalité augmentée et les jeux vidéo d'art, découvrez nos offres en ligne et participez à notre volet professionnel. Le Mois Multi, c'est pour tous. Alors, on s'y voit. Consultez la programmation au moismulti.org.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Bon midi à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons la nouvelle doctorante en nutrition Stéphanie Harrison, qui s'est intéressée aux recommandations actuelles en termes de consommation d'acides gras saturés et leur impact sur la santé. Son projet de recherche a été chapeauté par le Centre Nutris, qui regroupe actuellement une cinquantaine de chercheurs et plus de 200 étudiants. Entre autres, une foule d'études en nutrition émerge de ce centre qui s'oriente selon trois axes principaux, soit la nutrition de précision, l'alimentation et comportement, et la nutrition et société. Donc, bienvenue à l'émission, Stéphanie, puis merci d'avoir accepté mon invitation. Et je dois dire aussi félicitations là, pour ton doctorat.
Merci beaucoup, Catherine, c'est super gentil.
Donc, Stéphanie, en fait, premièrement, le titre de tes études au doctorat nous laisse un peu perplexe. Je m'explique, là, en fait, là, tu sais, depuis quelques années, la majorité des experts, que ce soit au niveau de l'alimentation, donc des nutritionnistes ou même en médecine, vont s'entendre pour dire que la consommation d'acides gras saturés est nocive pour la santé, puis surtout au niveau de la santé cardiovasculaire. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à croire qu'il faudrait prendre ces recommandations-là avec un petit peu plus de critique? Puis c'est pourquoi, justement, avoir décidé de travailler sur ce sujet-là en particulier?
Oui, mais en fait, Catherine, tu as tout à fait raison. Là, ça fait au moins depuis les années 60 que les gras saturés font partie de la discussion en termes d'alimentation, surtout par rapport à leur association au risque de maladies cardiovasculaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recommandation actuelle de limiter sa consommation de gras saturés est basée surtout sur deux connaissances ou du moins deux évidences qui sont disponibles dans la littérature. La première, c'est que la consommation de gras saturés fait augmenter les concentrations sanguines de cholestérol LDL ou de mauvais cholestérol, entre guillemets, ce qui est un facteur de risque, en fait, des maladies cardiovasculaires. De plus, dans les recommandations, il est souvent recommandé plus spécifiquement de remplacer les gras saturés dans l'alimentation par des gras insaturés, surtout polyinsaturés. Cette recommandation-là est présente surtout puisqu'il a été montré que le remplacement des gras saturés par les gras polyinsaturés menait à un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est incontesté, là, c'est vraiment montré dans la littérature. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que dans les 10 dernières années, il y a beaucoup d'études qui ont critiqué un peu la recommandation, ou du moins qui ont rendu disponibles de nouvelles évidences qui permettaient de remettre en question cette recommandation-là. Donc d'abord, l'augmentation de cholestérol LDL, donc de mauvais cholestérol qui est observé suite à la consommation de gras saturés, serait pas associé à une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires en soi. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on s'intéresse à la consommation de gras saturés, celle-ci n'est pas associée à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Donc ça, il y a plusieurs études qui ont montré ça, autant des méta-analyses que des revues systématiques, donc des études de très bonne qualité. De plus, le remplacement des gras saturés par des gras polyinsaturés, donc ça, comme je l'ai dit, ça a été montré comme quelque chose de très positif. Par contre, il y a plusieurs experts qui remettent en question, est-ce que cet effet-là est vraiment dû à la diminution des apports en gras saturés ou plutôt à l'augmentation des apports en gras polyinsaturés? Donc, c'est difficile de départir les deux, mais il est très possible que ce ne soit pas la diminution des gras saturés qui amène cet effet bénéfique-là.
Donc ici, là, juste pour t'arrêter, ça voudrait dire que quelqu'un pourrait quand même consommer une certaine quantité d'acides gras saturés, mais le fait d'ajouter à sa diète, si on veut, des acides gras polyinsaturés, c'est peut-être ça qui finalement qui annule l'effet négatif, là, sans nécessairement que ça joue sur les gras saturés. C'est ça.
Tout à fait. Oui. Okay. Parce que les études sur les gras polyinsaturés isolés, là, donc vraiment juste la consommation de gras polyinsaturés, montrent quand même des bénéfices au niveau cardiovasculaire. Donc, c'est difficile vraiment de dire si c'est vrai, la diminution des gras saturés ou l'augmentation des gras polyinsaturés qui est bénéfique au niveau de la santé cardiovasculaire. On demande beaucoup pourquoi. Les nombreux experts qui remettent en question la recommandation pointent surtout la source alimentaire de gras saturés, donc les aliments duquel proviennent les gras saturés, comme un joueur très important qui modifierait l'association entre les gras saturés et le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, par exemple, les gras saturés des produits laitiers ne seraient pas vraiment associés au risque de maladies cardiovasculaires, alors que les gras saturés de la viande, eux, seraient associés à un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est un peu ça qui fait que nous, on s'est intéressé à cette recommandation-là puis qu'on voulait documenter cette recommandation-là sous d'autres aspects, puisque c'est ça, elle est remise en question là, dans les 10 dernières années.
Mmh. Puis justement, avant que tu entres un petit peu plus dans les détails, puis là, tu en as parlé un petit peu en parlant des gras saturés, par exemple des produits laitiers ou des produits animaux. Mais tu sais, bon, mettons que moi, je connais rien là-dedans là, sur les acides gras, par exemple. Mais c'est où que je retrouve des acides gras saturés dans mon alimentation? Puis c'est quoi les sources les plus élevées, si tu as ces données-là, dans la population, disons, québécoise ou canadienne?
Oui, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'un aliment qui va contenir des lipides ou du gras va souvent contenir en proportions différentes autant des gras saturés que des gras monoinsaturés ou des gras polyinsaturés. Donc, les gras insaturés sont considérés comme plutôt bons pour la santé, si on veut, puis les gras saturés sont considérés comme mauvais pour la santé, si on y va très simplement. Mais il va en avoir de ces trois types de gras-là, donc saturés, monoinsaturés et polyinsaturés, dans pas mal tous les aliments qui contiennent du gras. Ceci étant dit, les gras saturés, en soi, on les retrouve surtout, du moins les sources importantes, avec les produits d'origine animale, donc les produits laitiers ou les viandes, et aussi certains produits d'origine végétale, surtout la noix de coco ou l'huile de noix de coco, là, donc qui va être très, très riche en gras saturés. Puis au Canada, en fait, chez les adultes canadiens, c'est environ 45 % de l'apport total en gras saturé qui provient des aliments qui ne sont pas recommandés dans le guide alimentaire canadien de 2019, ce qui est suivi par environ 24 % de l'apport total qui provient des viandes et substituts, puis un autre 24 % de l'apport total en gras saturé qui provient des produits laitiers et de leurs substituts.
OK. Donc, si je comprends bien, il y a presque la moitié des apports en gras saturé de la population qui viendraient de d'autres aliments qui ne sont pas issus justement du guide alimentaire ou des recommandations. Puis, ce serait, par exemple, des aliments comme des sucreries ou des desserts, etc., des choses comme ça.
Oui, donc en fait, on parle d'aliments souvent hautement transformés qui sont pas recommandés dans le guide alimentaire canadien. Donc les pâtisseries, le chocolat, les grignotines salées ou sucrées, donc comme les chips par exemple. C'est surtout là que se retrouvent les aliments non recommandés dans le guide alimentaire canadien.
C'est bon. Puis est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de quelle façon vous êtes pris pour réaliser ton projet de recherche? Puis quelles ont été les révélations les plus surprenantes là, que tu aurais faites durant ce projet-là qui a duré sûrement quand même sur quelques années?
Oui, c'est ça. Mon projet s'est étendu sur environ 4 ans. Donc, c'est ça, les gras saturés, c'est un nutriment qui est très, très étudié dans la littérature. Donc, nous, notre but principal, c'était un peu de sortir des sentiers battus puis d'offrir des évidences ou des connaissances nouvelles, donc des trucs qu'on savait pas sur les gras saturés. Et on avait comme 4 objectifs principaux. Et on voulait d'abord documenter c'est quoi la consommation actuelle, c'est quoi les sources actuelles. Donc, c'est ça, les données que je vous ai présentées plutôt, que je vous ai nommées plutôt sur les sources, c'était une partie des objectifs de mon projet. Notre deuxième objectif, c'était d'évaluer l'impact théorique de l'adhésion aux recommandations actuelles là, spécifiques aux gras saturés. Donc, si tous les Canadiens adhéraient aux recommandations qui se trouvent dans le guide qui visent la diminution des apports en gras saturés, qu'est-ce que ça donnerait au niveau des apports nutritionnels au pays? Et ensuite, on s'est intéressé à l'impact de différentes sources alimentaires de gras saturés sur la qualité globale de l'alimentation. Puis finalement, pour prendre quelques pas de recul, puis vraiment regarder le tout dans un contexte plus global, on s'intéressait à comment l'alimentation se comparait à d'autres facteurs de risque des maladies cardiovasculaires là, dans un contexte de santé cardiovasculaire dite idéale. Donc, j'ai réalisé la majorité de mes analyses dans un échantillon qui est représentatif de la population canadienne, donc ce qui fait que les données issues de mon projet sont hautement pertinentes là, dans le contexte canadien, bien sûr. Puis, pour répondre à la deuxième partie de la question, donc les résultats les plus surprenants, bien, je dirais qu'il y en a comme 2, si on veut, en premier lieu. C'est sûr que mes analyses les plus inusitées, c'était celles qui visaient à mesurer l'adhésion, en fait, mesurer les impacts de l'adhésion aux recommandations spécifiques aux gras saturés du guide alimentaire canadien. Ça, ça n'avait jamais été fait dans un contexte canadien. C'est sûr que tout ce qu'on sortait de ces analyses-là, c'était comme intéressant et surprenant pour nous. Brièvement, ce qu'on a trouvé, c'est que il y a une recommandation de consommer des produits laitiers faibles en gras. Donc, c'est la première à laquelle nous nous sommes intéressés. Puis, si tous les Canadiens adhéraient à cette recommandation-là, ça demanderait quand même des changements importants dans les habitudes des Canadiens, mais ça mènerait pas à un changement si important que ça au niveau des apports en gras saturés. Donc, le changement est assez minime, alors qu'au niveau de la recommandation incluse dans le guide alimentaire canadien qui dit que les aliments qui contiennent surtout des gras saturés devraient être remplacés par des aliments qui contiennent surtout des gras insaturés. Donc, si tous les Canadiens adhéraient pleinement à cette recommandation-là, ça mènerait à une diminution vraiment très importante des apports en gras saturés au pays, mais ça mènerait aussi à une diminution des apports en gras insaturés, donc ce qui pourrait avoir un effet pas escompté en fait au niveau du risque cardiovasculaire. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, bien, c'est le remplacement surtout des gras saturés par des gras polyinsaturés qui seraient associés à un risque plus faible en fait de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est comme les résultats un peu funky, si je peux me permettre, un peu inusité de mon projet. Ceux qui ont fait le plus jaser, par contre, c'est ceux qui montrent en fait que au Québec, seulement environ 0,5% des adultes parlant le français ont une santé cardiovasculaire qui est jugée comme idéale selon les critères de l'American Heart Association. Puis, parmi cet échantillon-là, il y a seulement environ 5% de l'échantillon qui avait une santé, en fait, une alimentation jugée comme saine dans le contexte de la santé cardiovasculaire, ce qui est très choquant quand même, puis un peu impressionnant, puis ce qui soulève en fait la nécessité, le besoin de promouvoir des saines habitudes alimentaires, puisque c'était le facteur de risque le plus prévalent, en fait, l'alimentation de faible qualité.
Voilà. Intéressant. Puis, en fait, le comment, justement, vous avez déterminé que c'est ça, il y a seulement 0,5% de la population qui rentrait dans cette catégorie-là là, de prévention aux maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques, justement?
Oui, on a utilisé les critères de l'American Heart Association. Donc, ça s'appelle le Life Simple 7. Donc, c'est 7 facteurs qui ont été associés à la santé cardiovasculaire, comme par exemple, c'est d'être non-fumeur, d'être actif physiquement, d'avoir une saine alimentation, d'avoir une glycémie à jeun dans les valeurs normales. Donc, plein de choses, de facteurs de la santé qui ont été associés à la santé cardiovasculaire. Puis on a mesuré, dans le fond, ces 7 facteurs-là dans un échantillon d'adultes québécois parlant le français. Puis pour avoir une santé jugée idéale au niveau cardiovasculaire, ça prenait les 7 critères. Donc, il y avait seulement 0,5% là, de l'échantillon étudié qui remplissait ces 7 critères-là.
Okay. Puis comme tu le mentionnais, bien, c'est surtout au niveau de l'alimentation que le bas blessait, là, si on peut dire.
Oui, exactement.
OK. Mais c'est super intéressant. Puis, tu sais, lorsqu'on, justement, quand on pense à l'alimentation, bien, il y a beaucoup de contradictions qui nous viennent en tête. Tu sais, en effet, il y a beaucoup d'aliments qui nous paraissaient nocifs pour la santé il y a quelques années, qui semblent finalement moins pires qu'on le croyait maintenant. Tu sais, j'ai en tête le beurre, par exemple, qui est un très bel exemple. Tu sais, comment tu peux expliquer, justement, qu'il y a sans cesse des modifications dans le discours des professionnels de l'alimentation? Parce que là, c'est un peu ce que vous remettez en cause en parlant des acides gras saturés. Donc, aurais-tu une explication logique là, par rapport à tout ça?
C'est une très bonne question. En fait, à mon sens, ben, à ma connaissance, en fait, ça n'a pas été documenté dans la littérature. Là, donc, ce que je réponds, c'est vraiment mon opinion personnelle. Mais c'est sûr que la recherche va beaucoup mettre l'emphase ou l'accent sur des nutriments en particulier. Par exemple, les gras saturés, par exemple, le sodium, par exemple, le sucre. Ils vont faire des analyses sur ce nutriment-là par rapport à la santé, mais ça fait qu'on oublie un peu que ce nutriment-là va se retrouver dans une multitude d'aliments qui vont aussi contenir une multitude de nutriments et de vitamines qui peuvent avoir des effets isolés ou individuels différents sur la santé. Par exemple, les produits laitiers, c'est un super bon exemple, comme tu le dis. Les produits laitiers vont contenir des gras saturés, vont contenir aussi du sel, si on parle du beurre ou du fromage, mais vont aussi contenir de la vitamine D, vont aussi contenir du calcium, donc vont contenir des nutriments ou des vitamines qui ont été associées plus favorablement à la santé. Donc, si on prend, c'est sûr, un nutriment de manière isolée dans un aliment, le discours peut changer parce que, ce nutriment-là est dans plein d'aliments différents. Donc, à mon sens, à moi, c'est beaucoup pour ça. Là, si on démonise un seul nutriment en particulier, puis on perd de vue un peu les aliments dans lesquels ils se trouvent, ça peut mener à des discours contradictoires au fil des années.
Est-ce que tu crois que ça pourrait expliquer en quelque sorte pourquoi justement il y a si peu de gens qui réussissent à, si on veut, manger selon les recommandations? Est-ce que c'est parce qu'ils sont un petit peu mélangés dans le discours, tu crois, ou ce serait une autre raison?
Je pense que oui. T'as un très bon point ici. Puis c'est pour ça aussi, je crois que les recommandations alimentaires se retournent un peu plus vers une approche qui favorise les patrons alimentaires. Donc, quand on dit patron alimentaire, on entend tous les aliments qui vont être inclus dans une saine alimentation vraiment de façon plus globale, sans focuser ou sans mettre l'emphase sur un nutriment en particulier. Donc, pour favoriser l'adhésion aux recommandations puis les rendre le plus simples possible.
Mais justement, ça m'amène à penser à l'outil qu'on utilise là, pour promouvoir justement les recommandations nutritionnelles ou en niveau de l'alimentation. Puis on sait, bon, ici, on utilise le guide alimentaire justement canadien. Est-ce que tu as des données justement sur l'utilisation réelle que les gens en font?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains outils qui existent pour mesurer l'adhésion aux recommandations en vigueur dans un pays. Au Canada, il vient tout juste d'être publié. En fait, c'est mon collègue Didier Brassard qui a publié le Healthy Eating Food Index. Donc, c'est un score de qualité de l'alimentation qui a été développé afin de mesurer à quel point l'alimentation d'un individu ou d'une population va refléter les recommandations actuelles, dans ce cas-ci, les recommandations du Guide alimentaire canadien de 2019. Donc, ça a été développé, oui, par mon collègue, mais avec plein de collaborateurs amateurs là, au Canada et aux États-Unis. Puis, ce score-là est sur 80 points. Puis, selon les plus récentes données alimentaires disponibles au Canada, le score moyen chez les Canadiens de 2 ans et plus serait de 43 points sur 80. Donc, ce qui suggère une adhésion quand même plutôt faible aux recommandations actuelles. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a certaines raisons qui peuvent faire que les gens adhèrent pas aux recommandations, donc que l'adhésion soit aussi faible. D'abord, la culture. Donc, le guide alimentaire se veut le plus inclusif possible, mais il est possible que certaines cultures ne reconnaissent pas leur héritage ou leurs habitudes alimentaires dans le guide alimentaire. Donc, ça peut rendre plus difficile l'adhésion aux recommandations. Le guide va beaucoup miser sur la santé, donc la saine alimentation pour atteindre la santé. La santé, c'est peut-être pas prioritaire pour tous. Pour nous, professionnels de la santé, c'est quelque chose qui est très prioritaire, mais il y a peut-être des gens qui trouvent ça moins prioritaire, donc ils vont favoriser peut-être plus le plaisir ou une autre raison pour s'alimenter. La littératie en nutrition, donc les connaissances de base en nutrition ou en alimentation peuvent faire que l'adhésion aux recommandations est plus difficile, comme comprendre les étiquettes nutritionnelles, comprendre les recommandations en soi. Puis finalement, ben, l'accessibilité ou le budget aussi peut rendre plus difficile l'adhésion aux recommandations telles qu'elles sont formulées présentement.
Très intéressant. Puis, si on veut résumer un petit peu, là, bon, justement, les résultats de tes études ou les recherches que vous avez faites par rapport aux gras saturés, est-ce que ce serait juste de penser que on met peut-être un peu trop l'emphase justement sur le nutriment gras saturé alors qu'on réalise que la majorité ou disons la moitié des aliments qui contribuent aux gras saturés sont des aliments qui ne sont même pas recommandés. Donc, est-ce que c'est parce que ces aliments-là sont riches en gras saturés ou c'est parce qu'ils sont riches en autre chose aussi qui vont entraîner finalement l'apparition là, de maladies cardiovasculaires?
Oui, bien en fait, c'est ça, c'est un super bon point. Nous, notre conclusion principale, si on veut, c'est qu'il y a certaines lacunes dans l'alimentation des Canadiens et des Québécois qui sont peut-être plus prioritaires que les gras saturés quand on y pense, considérant que les gras saturés de plusieurs sources alimentaires sont quand même pas nécessairement associés à la santé. La recommandation précise sur les gras saturés, elle peut mélanger les gens puis elle peut agir comme une distraction un peu à d'autres recommandations comme de consommer des légumes, des fruits entiers, de consommer des grains entiers, d'opter pour des protéines végétales qui vont avoir un impact quand même très positif là, sur l'alimentation parce qu'ils vont diminuer aussi la consommation de ces aliments-là qui ne sont pas recommandés. Donc, c'est sûr que si on mange beaucoup plus de légumes, de fruits, de grains entiers, bien, on va avoir souvent moins faim pour d'autres aliments qui ne sont pas recommandés dans le guide. Puis, ça va aussi augmenter la consommation de fibres alimentaires, par exemple, de certaines vitamines et minéraux, de plein de choses super positives. Donc, c'est ça, une alimentation qui va être riche en légumes et fruits, en grains entiers, en protéines végétales va être automatiquement faible en gras saturé. Donc, la pertinence ou l'obligation d'inclure une recommandation spécifique à ce nutriment-là qui pourrait être difficile à comprendre pour certains perd de son importance un petit peu.
Fait que toi, si tu avais à refaire un peu les recommandations ou le guide alimentaire, en plus, le guide est assez nouveau, là, le plus récent, qu'est-ce que tu changerais davantage justement pour essayer de mieux cibler cette recommandation-là puis moins mettre la faute là, entièrement sur les gras saturés?
Bien, ça, comme tu le dis, le guide est très nouveau. Là. Il y a beaucoup de points positifs aussi dans le guide. Il faut lui donner ce qui lui revient. Là. Donc, il y a une approche super inclusive là, qui est vraiment plus sur les patrons alimentaires, comme je l'ai mentionné. Puis ça, c'est super positif. Je pense quand même que de promouvoir justement des aliments entiers, peu transformés, de vraiment se concentrer sur un message positif, donc éliminer l'espèce de culpabilité alimentaire qui peut survenir en disant « ne pas manger ça, ne pas manger ça, ne pas manger ça », je pense que ce serait une bonne chose d'enlever les recommandations spécifiques à certains nutriments qui peuvent être plus difficiles à comprendre ou qui vont distraire la population, si on veut, de des trucs vraiment plus prioritaires. Puis aussi, idéalement, de favoriser l'accessibilité autant en donnant des trucs pour préparer certains aliments qui ne sont pas tant consommés ou des recettes, des idées, des trucs comme ça, de favoriser les compétences culinaires aussi. Là. Mais tu sais, ça fait un guide qui est très large, là, mais je pense de se concentrer sur un message positif avec le moins de recommandations possibles qui vont cibler l'essentiel puis qui vont moins mélanger les gens, c'est une formule gagnante.
Puis, c'est justement, c'est depuis, à chaque début d'année, on entend beaucoup parler des régimes alimentaires, justement, de nouvelles résolutions. Fait qu'on essaie de, démoniser pardon, certains nutriments ou certains aliments. Fait que c'est un peu ça qu'on fait hein, quand on parle seulement, par exemple, des gras saturés. Puis tu sais, on en entend de plus en plus parler aussi. On essaie de démocratiser tout le marketing lié au régime alimentaire puis la réduction du poids corporel. Mais d'un autre côté, on parle quand même des maladies cardiovasculaires puis l'effet des habitudes de vie sur celles-ci. Donc, c'est des discours des fois qui sont un peu confrontants. Puis, tu sais, selon toi, outre tout ça, tu sais, la meilleure façon d'aborder la saine alimentation sans nécessairement mélanger les gens puis d'accentuer des relations malsaines avec les aliments, ça passerait par quoi? C'est une grande question philosophique.
Oui, c'est ça. Et comme je l'ai mentionné un peu dans la question précédente, je pense que l'important, c'est de vraiment se concentrer sur un message positif. Donc, la promotion des aliments sains au lieu de démoniser des aliments qu'on dit, entre guillemets, malsains. Je pense que ça, c'est super important parce que ça va peut-être favoriser une meilleure relation avec la nourriture. Ça va enlever la culpabilité aussi, ou du moins l'aspect qui va faire que les gens qui n'ont pas vraiment le choix de manger des aliments qui ne sont pas recommandés, ben ils vont peut-être se sentir moins mal, puis ils vont essayer d'inclure ces aliments-là qui sont recommandés, puis aussi de favoriser les compétences culinaires puis les connaissances en alimentation de base qui vont permettre aux consommateurs de faire des meilleurs choix ou du moins d'être capable de mieux orienter là, ses priorités dans son assiette. Donc, je ne sais pas si ça passe par des cours d'économie familiale ou autre, mais je pense que c'est ça là, la base. Donc, le message positif sur les aliments entiers peu transformés.
Mm-hmm. Donc, si on peut dire les conclusions de votre étude nous permettraient peut-être de dire, ben justement, ça ne sert peut-être à rien de juste cogner sur le clou des gras saturés, puis on devrait peut-être avoir un discours qui est plus englobant ou positif là, de l'alimentation.
Ben oui, tout à fait. C'est ça, considérant la faible consommation de grains entiers, de légumes et fruits actuellement dans la province puis au pays, ben tu sais, peut-être que les gras saturés, c'est un peu moins prioritaire, puis ça sert peut-être plus à grand-chose finalement de les avoir. Ils sont importants quand même, c'est un nutriment d'intérêt en santé publique, puis ça va le demeurer parce qu'ils peuvent avoir un effet comme au niveau de la santé cardiovasculaire, mais une augmentation de la consommation de légumes et fruits aussi. Donc, c'est ça, il faut choisir nos priorités, je pense.
C'est super intéressant. Puis, ben, on va te souhaiter la meilleure des chances là, pour la suite post-doctorat. Puis, au plaisir d'en apprendre un peu plus sur tous ces sujets.
Merci.
Bon après-midi.
Bon après-midi.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivé au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine! Il contribue tous les jours à faire avancer la recherche scientifique, que ce soit sur le terrain, en laboratoire ou derrière leurs ordinateurs. Leurs découvertes et leurs idées nous aident à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et à anticiper le monde de demain. Ils sont étudiants ou chercheurs et viennent nous parler de leur projet dans Visage des sciences, une émission présentée par Océane Perrault, disponible en balado sur schiste.ca.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Schiste 94.3.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h. Schiste 94.3.
D'écoute!
Les intellectuels déclassés, ce sont trois animateurs sérieux qui commentent l'actualité et qui, après la pause, se transforment en trois qui discutent de la culture web québécoise. La pertinence chevauchant l'absurdité. Une émission deux en un, parfaite pour égayer vos soirées les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tous les mardis à 10h, écoutez Pensez-y bien avec Juliette et Catherine sur les ondes de Chiz. Une émission pour les curieux, pour les connaisseurs, pour les débutants, bref, une émission pour tout le monde. À chaque semaine, on découvre et on décortique un sujet d'actualité ou d'intérêt général avec notre regard de futurs journalistes. Pensez-y bien, tous les mardis à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Yeah.